Vous écoutez, on lit pour vous.
Le skidoo inventé, puis métamorphosé. Un texte de Marc Tison, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. En 1965, la motoneige skidoo, inventée 6 ans plus tôt, évoquait encore une vieille locomotive diesel avec son ventre mou et son phare planté haut sous le pare-brise. En 1966, le nouveau modèle, dont les ventes allaient exploser, montrait l'emblématique capot jaune finement arrondi et liséré de noir. Le designer Anselm Sam, la pointe, était intervenu. En 1959, l'invention de Joseph Armand Bombardier était révolutionnaire et ingénieuse, mais rudimentaire. Le succès viendrait, quoique d'abord à petite vitesse. S'il n'est pas le premier à commercialiser un traîneau motorisé, le prototype qu'il met timidement sur le marché en 1959 est la première motoneige digne de ce nom, suffisamment légère et puissante pour filer sur la neige. L'aboutissement d'une longue et patiente obsession. Inventeur dès sa jeunesse. 60 ans avant Bombardier Aéronautique, Joseph Armand avait déjà fabriqué un appareil à hélice. Né à Valcourt en 1907, il a montré dès l'enfance une prodigieuse créativité mécanique mise à profit dans l'atelier bien équipé de la ferme familiale. À peine âgé de 15 ans, il retape un vieux moteur de Ford Model T, l'installe sur un châssis articulé muni de 4 patins et ajoute une hélice en bois de sa conception. Il parcourt bruyamment 1 kilomètre sur la neige avant que son père lui ordonne de démonter le dangereux engin, ce qui ne l'empêche pas de le photographier fièrement. Après un apprentissage en mécanique et électricité automobile, Joseph Armand ouvre son propre garage à Valcourt en 1926. L'isolement des petites localités en hiver l'incite à s'attaquer au problème de la mobilité sur la neige. Après des années d'expérimentation plus ou moins hasardeuses, sa première auto-neige à chenilles, étrange scarabée hivernale, entre en production durant l'hiver 1936-1937. 20 ans plus tard, l'entreprise de Valcourt réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,5 millions avec une série d'engins utilitaires chenillés. Rêver petit. Mais le prolifique inventeur rêvait depuis longtemps d'offrir aux travailleurs du Grand Nord un petit véhicule hivernal à la manière d'un traîneau à chien sans chien. La difficulté résidait dans le poids de l'appareil, qui devait flotter sur la neige plutôt que de s'y enfoncer. Son fils Germain, un autre protagoniste méconnu, met en place l'une des pièces maîtresses du casse-tête avec la chenille sans fin en caoutchouc qu'il conçoit et brevette en 1957. Joseph Armand bricole d'abord une baignoire sur chenille dans laquelle on s'assoit, puis ouvre les parois pour en faire un engin qu'on chevauche. Son 4e prototype, testé en 1958, montre la configuration que prendront toutes les motoneiges du monde avant 10 ans. 2 skis orientables à l'aide d'un guidon, un petit moteur recouvert d'un capot à l'avant, une large chenille protégée par un châssis muni d'un long siège rembourré. Skidog. 2 motoneiges sont construites au printemps 1959. La production reprend à la fin de l'année après des tests menés en Ontario. D'abord nommées Skidog, les motoneiges adoptent la marque Skidoo dès la 5e unité, vraisemblablement en raison d'une coquille à l'impression d'un document promotionnel. Nous avons le document en question et il est vrai que la lettre G est déformée et ressemble davantage à un O, indique Raphaël Bourgeois, co-directeur du musée de l'ingéniosité Joseph Armand Bombardier. Les petits véhicules sont peints d'un jaune légèrement orangé dont l'origine est incertaine. La production totalise 225 engins pour la saison 1959-1960, puis 250 l'année suivante. En 1962-63, l'entreprise construit 2103 appareils. Durant la saison 1963-64, au moment où Joseph Armand Bombardier meurt d'un cancer à seulement 56 ans, la production a atteint 8352 unités. La saison suivante, 13 259 motoneiges modèle 1965 sortent de l'usine. Mais le skidoo, dont le nom s'inscrit en rouge dans un triangle bordé d'une espèce de moustache de ventilation, ressemble plus à un bulldog pato qu'à un lévrier des neiges. C'est ici qu'intervient Anselme Lapointe, une famille talentueuse. La famille d'Anselme Lapointe n'était pas banale non plus. Son père, Arthur Joseph Lapointe, chef de gare à Price dans le Bas-Saint-Laurent, avait combattu en France durant la Première Guerre mondiale avant d'être élu député fédéral. Parmi les 6 frères et sœurs d'Anselme, on compte le criminaliste réputé Gabriel Lapointe et l'auteur-compositeur-comédien Jean Lapointe, qui a lui aussi laissé quelques souvenirs. Né à Price en 1933, Anselme étudie à l'École des beaux-arts de Québec, où il obtient en 1954 un diplôme en art décoratif. Il ouvre bientôt son propre bureau de design intérieur à Québec. Or, le futur président de Bombardier, Laurent Baudouin, qui avait épousé Claire, la fille du fondateur, était comptable agréé dans la même ville. À l'époque, Lapointe et associés faisaient faire ses impôts par le cabinet comptable de Laurent Baudouin, raconte Raphaël Bourgeois en entretien téléphonique. Laurent Baudouin rejoint Bombardier en 1963 et en devient le directeur général l'année suivante à la mort de son beau-père. Il confie alors à Anselme Lapointe l'aménagement de sa nouvelle résidence de Valcourt. Anselme saisit l'occasion pour lui faire délicatement connaître son opinion sur le style des motoneiges de Bombardier. « J'étais devenu suffisamment familier avec Laurent Baudouin pour lui dire que ses bibites étaient laides et qu'elles gagneraient à être redessinées », a-t-il confié au journal La Tribune en 1996. « Il m'a mis au défi, je l'ai relevé ». En décembre 1964, Laurent Baudouin met une motoneige à sa disposition chez le concessionnaire Bombardier de Québec. Sur ce châssis, il dessine et confectionne avec deux techniciens un prototype qu'il présente à la direction de Bombardier en mars 1965 à l'Auberge des gouverneurs de Québec. Un skidoo bleu. Le designer propose un engin aux lignes arrondies, mais bien définies, doté d'un capot plus aérodynamique et d'un pare-brise mieux intégré. Inspiré par le cabriolet anglais Lotus Elan, il le dote d'un phare escamotable. Le nom skidoo s'inscrit dans la bande qui ceint le bas de caisse. Petit détail, hormis cette ceinture, l'engin est entièrement bleu méditerranée, une couleur de la palette Chrysler de 1965. Pour lui, le jaune n'était pas synonyme de plaisir. C'était la voirie et les autobus scolaires, relate Raphaël Bourgeois. L'initiative colorée a été brisée dans l'œuf, dont le jaune est demeuré. Mais pour l'essentiel, la proposition d'Anselme a été retenue. C'est un tournant dans l'histoire de la compagnie au niveau du design, affirme M. Bourgeois. Le modèle affiné de 1966 lance l'âge d'or de la motoneige, dit-il. Des cimes et des vallées. En 1965-1966, l'usine produit 22 433 motoneiges au nouveau design, soit près de 10 000 appareils de plus que l'année précédente. La production double la saison suivante pour atteindre 44 421 engins. Bombardier a fait naître une industrie et les concurrents se ruent sur le marché. Au tournant des années 1970, on compte près de 130 manufacturiers en Amérique du Nord, dont une vingtaine au Québec. La production de Bombardier atteint un sommet avec 211 927 motoneiges en 1970-1971. À la fin des années 1970, il ne demeure plus que 6 grands constructeurs à l'échelle mondiale. La surproduction et la crise pétrolière de 1973 ont causé l'hécatombe. Au travers de ces montagnes russes et enneigées, Anselme Lapointe, devenu directeur du design chez Bombardier, contribuera à la conception des motoneiges jusqu'en 1993. En 1984, Design Canada lui a décerné son prix d'excellence pour ses modèles SS25 et Safari. Il s'est éteint en 1999. De père en fils. L'entreprise fondée par Joseph Armand s'est délestée en 2003 de sa division des véhicules récréatifs devenue BRP. BRP, qui a élargi sa gamme aux petits engins nautiques et terrestres, se maintient toujours fermement parmi les 4 derniers grands manufacturiers de motoneige. Le fils d'Anselme, le designer industriel Denis Lapointe, avait commencé à travailler chez Bombardier en 1985. Nommé chef de la direction du design chez BRP en 2022, il dirige une équipe de quelques 135 concepteurs d'une vingtaine de nationalités différentes, réparties dans 3 centres de design et d'innovation. Avec sa première intervention en 1965, son père avait tracé la piste. C'était le skidoo inventé, puis métamorphosé. Un texte de Marc Tison, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.
Un plafond pour freiner la surconsommation. Un texte de Francis Vaille, paru le 4 novembre 2025 dans la presse. Je sais, c'est plutôt ambitieux. Mais imaginez un instant que ce projet aille de l'avant. Imaginez l'impact qu'il aurait sur la richesse collective, l'environnement et les inégalités sociales. À partir du 1er janvier 2027, tout serait mis en œuvre pour que chaque Québécois limite sa consommation d'énergie à 8000 kWh, kWh, par année, autant que faire se peut. On parle du volume d'énergie électrique qui figure sur la facture d'Hydro-Québec de chaque logement, appartement, condo ou maison, divisé par le nombre d'occupants. Pour atteindre cet objectif, disons sur 5 ans, une série de mesures serait spécifiquement déployée. Subventions ciblées pour l'isolation, installation d'équipements adaptés, tarifs majorés significativement pour les volumes excédant ces 8000 kWh, etc. C'est Pierre-Olivier Pinault qui a lancé l'idée, ce professeur de HEC Montréal, expert en énergie. Le projet d'économie d'énergie nous éviterait de surconstruire des projets énergétiques, évitant ainsi les possibles dépassements de coûts et la surconsommation de l'environnement, rivières, paysages, etc., en plus de réduire les litiges inhérents, le phénomène du « pas dans ma cour », notamment. Le premier réflexe que j'ai eu en lisant sa suggestion, proposée dans le dossier de la presse du 19 octobre 2025 sur l'État-providence, a été de consulter ma facture d'Hydro-Québec. Suis-je dans les normes attendues? Il y a 10 ans, j'aurais amplement respecté la limite avec mes 24 000 kWh pour 5 personnes, 4 800 kWh par habitant. Il y a 2 ans, j'aurais été correct. Nous étions 3. Mais depuis que la marmaille a quitté le nid, je dépasse l'objectif avec 12 000 kWh par personne. Que faire dans mon cas? 4 options. Mieux isoler, louer un espace inoccupé, payer le supplément pour ma consommation excédentaire ou déménager dans plus petit. Attention, les Québécois resteraient libres de consommer autant qu'ils veulent, tant à la maison qu'à leur chalet. Le chalet et son spa seraient aussi compris dans le calcul, bien entendu. C'est 8000 kWh par personne, peu importe combien de propriétés résidentielles ces personnes occupent, donc pour la maison et le chalet, par exemple. Inévitablement, ce sont les riches qui paieraient davantage et les pauvres qui en profiteraient, en supposant qu'on tienne compte des logements mal isolés dans l'équation. L'objectif est atteignable. En moyenne, la consommation résidentielle d'électricité au Québec atteint justement 8 096 kWh par habitant, selon des données de Statistique Canada reprises par M. Pinault. Et l'objectif n'est pas trop sévère. Le Québec fait partie des plus grands consommateurs mondiaux d'énergie résidentielle. En incluant toutes les formes d'énergie, électricité, gaz, etc., le Québec consomme l'équivalent de 9 722 kWh par habitant, en moyenne, devant d'autres pays nordiques comme la Suède, 8 889 kWh, ou la Norvège, 8 056 kWh. Nous consommons beaucoup trop d'énergie, donc, et la gourmandise augmente souvent avec les revenus qu'on peut corréler avec la dimension des maisons et des chalets. Pierre-Olivier Pinault propose une application informatique où des points seraient attribués par famille. On pourrait revendre, transférer ces points, comme on peut le faire pour les points de fidélité si on ne les utilise pas. Les ménages à faible revenu pourraient ainsi bénéficier de leur sous-consommation en revendant leurs points. Les grands consommateurs devraient soit acheter des points, soit payer le prix d'approvisionnement des nouvelles infrastructures que développe Hydro-Québec, m'explique le chercheur. Bref, il y aurait un vrai signal de prix qui inciterait à économiser, avec comme avantage de favoriser les moins nantis et l'environnement. J'ai fait le tour de certains collègues de la presse pour avoir le portrait de leur consommation. Le cottage attaché et la maison en rangée de 2 collègues passent la rampe à environ 20 000 kWh chacune pour 3 personnes. Le logement de 5,5 pièces à Montréal d'une autre collègue aussi a 10 000 kWh pour 2 personnes. Il faut dire que le logement est encadré par 2 autres, profitant de leur chauffage. En revanche, la petite shoebox centenaire, donc mal isolée, d'une collègue est énergivore à 16 000 kWh pour 1 personne. À Hydro-Québec, on me dit que la consommation résidentielle moyenne atteint 17 596 kW par année Et comme le ménage moyen compte 2,2 personnes au Québec, la consommation atteint 7 998 kWh par personne, très près du seuil proposé de 8 000 kWh. Pour Hydro-Québec, ce n'est pas tant la consommation annuelle globale qui prime que celle en période de pointe, où la puissance devient rare et coûteuse. Il reste que l'objectif de 8 000 kWh serait plus mobilisateur. Surtout, Hydro m'explique que, justement, elle imposerait une facture plus salée aux très grands consommateurs résidentiels, ceux qui ont des Monster House et qui chauffent leurs entrées de garage, par exemple. Dès le 1er janvier 2027, si la Régie de l'énergie l'accepte, Hydro-Québec ajoutera une troisième tranche tarifaire aux deux premières, dont l'objectif est d'insister à économiser. Le nouveau tarif touchera seulement 1 % des consommateurs, soit les maisons qui consomment plus de 50 000 kW par année. Selon les paramètres d'Hydro-Québec, ce sont les maisons de plus de 4 200 pieds carrés qui ont ce genre de consommation. Ces grosses cabanes sont au moins 3 fois plus grandes que la maison unifamiliale moyenne de 1 700 pieds carrés, en incluant le sous-sol. Malgré l'intention louable d'Hydro-Québec, j'ai un gros bémol face à cette nouveauté. C'est que la troisième tranche de tarif pour ces grosses cabanes en 2027 augmentera de seulement 0,4 cents le kilowattheure. Le 1er avril 2027, les 40 premiers kilowattheures par jour seront facturés 7,38 cents, les 95 kilowattheures suivants seraient facturés 11,39 cents et le prix du reste des kilowattheures serait de 11,83 cents. Dit autrement, on ne fera guère payer l'énorme consommateur davantage que le consommateur régulier. Et comme ce gros consommateur a amplement les moyens, la mesure n'aura pas d'effet sur son comportement, sinon très peu. Hydro-Québec manque d'ambition, selon moi. Ce genre de seuil de 8 000 kWh entraîne son lot de questionnements. Devrait-il englober la voiture électrique branchée à la maison? Et comment estimer la facture pour le chalet s'il est loué la moitié de l'année? Et que faire des familles reconstituées dont une partie vit une semaine sur deux dans un logement différent? Ultimement, il faudrait aussi ajouter les logements chauffés au mazout et au gaz naturel dans l'équation. Je sais. Le projet devrait être peaufiné avant d'aller de l'avant. Mais avoir la planète se réchauffer, avec ses lourdes conséquences et nos finances publiques se détériorer, ne serait-il pas temps de modérer notre consommation, quitte à doper le tarif de ceux qui surconsomment? C'était « Un plafond pour freiner la surconsommation », un texte de Francis Vaille, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.
Sur les bouteilles d'eau à usage unique, un texte de Pauline Gravel, publié le 1er décembre 2025 dans Le Devoir. En plus de polluer l'environnement, le plastique des bouteilles d'eau à usage unique exposerait les consommateurs à des effets délétères sur leur santé. Or, une majorité de gens croient que l'eau en bouteille est meilleure pour leur santé que l'eau du robinet. Sarah Sajedi, de l'Université Concordia, s'applique à accumuler les preuves de la nuisance de ces bouteilles d'eau à usage éphémère dans le but de convaincre la population d'abandonner leur utilisation et d'inciter les décideurs à adopter des règlements limitant leur usage. La doctorante déplore le fait qu'on s'est très peu préoccupé jusqu'à maintenant des bouteilles d'eau à usage unique dans les discussions sur la pollution plastique. Ce sont surtout les sacs à usage unique et les pailles de plastique qui ont monopolisé le débat, rappelle-t-elle. Lequel débat a finalement abouti à certaines mesures d'élimination qui commencent à porter leurs fruits. Pourtant, les bouteilles d'eau à usage unique représenterait environ 70 % des déchets de plastique se retrouvant dans la nature. Dans le but de renverser la vapeur, Mme Sajedi s'est lancé dans l'étude des effets pernicieux sur la santé de ces bouteilles d'eau à usage unique qui sont constituées d'un plastique bon marché et de piètre qualité. À la suite d'une vaste revue de la littérature scientifique, elle fait part, dans le Journal of Hazardous Materials, des multiples risques pour la santé humaine qu'entraîne la consommation régulière d'eau en bouteille de plastique. Dans cet article, on apprend que, lorsque nous buvons l'eau de ces bouteilles, nous ingérons des microplastiques, soit des particules de plastique d'une taille inférieure à 5 mm, qui sont relâchées par le plastique des bouteilles dans l'eau qu'elles contiennent. On y souligne que l'absorption de ces microplastiques dans l'organisme dépend de leur taille. Ainsi, les particules d'une taille supérieure à 150 micromètres ou 0,15 mm ne sont pas absorbées et seraient excrétées dans les selles, alors que celles de 100 micromètres peuvent entrer dans la veine porte qui les transportera de l'estomac jusqu'au foie. Quant aux particules de nanoplastique qui mesurent moins de 0,1 micromètre, soit 100 nanomètres ou 0,0001 mm, elles traversent les capillaires et se retrouvent dans le sang. Et comme la circulation sanguine transporte le sang dans tout l'organisme, les nanoparticules, qui sont 75 fois plus petites que les cellules sanguines, peuvent ainsi atteindre tous les organes du corps, y compris le cerveau, et s'y accumuler, précise-t-elle. Compte tenu de leur très petite taille, les nanoparticules peuvent pénétrer dans les cellules et interagir avec notamment les protéines, les lipides, les hydrates de carbone et les acides nucléiques qui forment l'ADN. 70%, c'est à peu près la part des déchets de plastique se retrouvant dans la nature, qui seraient des bouteilles d'eau à usage unique. Selon diverses études animales et in vitro, l'exposition chronique à ces microplastiques et particulièrement à ces nanoparticules de plastique accroît le risque d'effets toxiques sur les systèmes nerveux, reproducteurs et respiratoires, de perturbations du système immunitaire, de déséquilibre de la flore intestinale et de carcinogénèse, développement de cancer. Madame Sajedi fait remarquer que la plupart des études effectuées jusqu'à maintenant n'examinaient que les microplastiques, car il n'y avait pas de technique d'analyse efficace permettant d'évaluer la concentration en nanoparticules. Seulement deux études récentes rapportent avoir réussi à mesurer les nanoparticules dans de l'eau embouteillée. Celle de Qian, publiée en 2024 dans PNAS, et celle de Zhang, parue en 2023 dans Environmental Science and Technology. Ces études ont permis de détecter des quantités astronomiques de nanoparticules, des quantités de 10 à 100 fois plus grandes que celles de microplastiques. Simuler l'exposition humaine. Dans le but d'avoir une idée de l'effet d'une consommation régulière d'eau en bouteille sur la santé humaine, Sarah Sajedi a introduit les concentrations obtenues lors de ces deux études dans un modèle numérique simulant l'exposition d'un humain à ces nanoparticules, ainsi que leur absorption et leur accumulation dans les divers tissus de l'organisme. Et pour donner encore plus de puissance à ces observations, la doctorante s'apprête à effectuer à son tour des mesures de la concentration de nanoparticules dans l'eau de bouteille à usage unique, grâce à un appareil de pointe que l'Université Concordia vient d'acquérir. Elle vérifiera également l'effet de divers facteurs, tels que l'effet des rayons ultraviolets, des changements de température, du brassage que subissent les bouteilles lors de leur transport vers les commerces, ainsi que lorsque nous les emportons avec nous. Ces facteurs, croit-elle, pourraient accélérer la dégradation du plastique des bouteilles et conséquemment accroître le relâchement de micro- et de nanoparticules de plastique dans l'eau qu'elles contiennent. Ces bouteilles d'eau à usage unique sont faites d'un plastique de basse qualité, souvent du polytéréphthalate d'éthylène, PET. Les bouteilles d'eau sont faciles à écraser et à briser quand elles sont vides. Elles sont constituées d'un plastique qui est fragile, qui n'est pas aussi solide et durable que celui des bouteilles de boissons gazeuses. Un important travail d'éducation devra être entrepris pour diminuer, voire limiter la consommation d'eau en bouteilles de plastique à usage unique, affirme Mme Sajedi. Car une enquête menée entre octobre 2023 et février 2024 auprès de 15 000 personnes, principalement des universitaires âgés de 18 à 39 ans, a montré que la majorité d'entre elles buvaient surtout de l'eau en bouteille, car elles croient que cette eau est meilleure pour la santé, qu'elle est plus sécuritaire. Ces personnes achètent de grosses caisses de ces bouteilles pensant que cette eau est meilleure pour leur famille, alors que l'eau du robinet est saine, voire plus saine que celle de ces bouteilles. En plus de ce travail d'éducation, il faut remettre en place des fontaines d'eau dans les endroits publics. Il faut rendre l'eau potable plus accessible à la population, insiste-t-elle, et emporter une gourde en verre ou en acier inoxydable quand on part à l'extérieur de la maison. On ne devrait avoir recours aux bouteilles de plastique à usage unique que dans des situations exceptionnelles, par exemple si on se retrouve coincé dans un endroit où l'eau n'est pas potable. Une consommation occasionnelle ne serait pas dangereuse. La consommation d'eau en bouteille ne devient nocive que lorsqu'elle devient chronique, précise Mme Sajedi. Ce contenu est réalisé en collaboration avec l'Université Concordia. C'était « Arrose sur les bouteilles d'eau à usage unique », un texte de Pauline Gravel, publié le 1er décembre 2025 dans Le Devoir.